Bonjour Fabrice Epstein.
Bonjour Franck-Alexandre.
Après Rock'n'Roll Justice, votre premier opus, vous avez tiré le fil musical pour arriver à la terre promise, disons-le, celle du jazz et du blues, le berceau des musiques noires, source inépuisable d'inspiration, mais aussi de plagiat par les musiciens blancs et en l'occurrence Led Zepp est sur le banc des accusés.
Oui, Led Zepp est sur le banc des accusés, et Led Zepp est toujours sur le banc des accusés, parce qu'on sait qu'ils sont servis allègrement auprès des musiciens blues, et à la différence d'autres artistes comme les Stones par exemple, ben, eux, ils étaient très contents de passer entre les mailles du filet, et ce n'est que quand les bluesmen s'en sont rendus compte et ont initié des actions en justice, qu'ils ont dit oui, effectivement, on vous a peut-être piqué, et Led Zepp, c'est les grands spécialistes des négociations en dehors des cours de justice. Ils font des deals. Ça, c'est Led Zepp.
Quel type de deal ?
Ouais, c'est-à-dire qu'ils payent les bluesmen en disant bah, finalement, effectivement, il n'y avait que nos noms sur la chanson, sur le copyright, on va rajouter votre nom, il y a un petit deal financier pour oublier le passé, et le futur, on va le faire ensemble.
Serge Gainsbourg aussi est-elle épuisé dans le blues, mais lui est passé entre les gouttes.
Oui, Serge Gainsbourg, il est passé entre les gouttes parce que c'est quelqu'un qui se nourrit auprès des autres musiques en permanence. Il est très ouvert, il a beaucoup de culture et un jour, il est un peu dans le creux de la vague. Et là, on lui dit qu'il faut qu'il aille regarder du côté des musiques africaines qui ont été très plébiscitées aux États-Unis. Il y va, il prend ses rythmes et on est sur Couleur Café, Pauvre Lola, etc. qui sont des chansons copiées-collées d'artistes noirs africains. C'est un peu comme Led Zeppelin, hein. Tant qu'on lui fait pas de remarques, il ne dit rien, il dit que c'est un peu dans l'air du temps, et finalement il s'en sert. C'était aussi un spécialiste d'aller chercher dans les musiques classiques, qui elles étaient libres de droit. Il s'est servi auprès de Chopin, Khatchaturian, etc. Donc il est très très familier de ce genre de façon de faire.
Le lion est mort ce soir, par exemple, c'est une chanson qui n'appartient à personne.
Alors, c'est pas réellement une chanson qui n'appartient à personne, c'est vrai que j'ai appelé la chronique comme ça dans le livre, mais c'est une chanson qui a traversé tellement de mondes différents. D'abord, elle vient d'Afrique du Sud, elle a été écrite par un compositeur africain du Sud, et ensuite, elle est allée entre les mains de beaucoup de gens, elle a été reprise par Pete Seeger et son groupe, alors sous une forme un peu différente, avec les Wimbowé, Wimbowé, hein, c'est cette chanson qui est caractéristique pour ça, et puis elle atterrit chez les Tokens, et c'est un journaliste sud-africain qui s'interroge sur ce sujet et qui réussit à retracer dans les années 80, par le biais d'un livre, toute l'histoire de cette chanson pour qu'enfin les droits arrivent dans la personne qu'il avait écrite au départ, qui est ce chanteur sud-africain.
C'est Johnson, je crois, qui a enregistré qu'une dizaine de tubes et qui n'avait pas déposé de droits.
Oui, exactement. Alors ça, c'est l'époque du blues où on sait un peu comment ça se passait. C'est que des gens ont écrit cette musique, ont rêvé cette musique, ont pensé cette musique. Et au bout d'un moment, certains blancs s'y sont intéressés et ils ont voulu aller sur place pour les enregistrer. Donc on est dans une musique orale qui devient une musique enregistrée. Donc ça, c'est l'autre étape. Ces personnes viennent sur place à la rencontre de ces bluesmen. Et effectivement, la question des copyrights, elle est mise de côté. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils mettent leur nom forcément à la place des artistes noirs, mais ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de suivi et que pour les familles, si tant est qu'il y en ait, hein, parce que parfois il n'y en a pas, et que Robert Johnson, lui, il a pactisé avec le diable, c'est encore un autre sujet. Mais il y a une recherche des droits qui est extrêmement difficile à faire.
Dans l'Amérique des années 30, en tout cas, le blues devient une arme politique et vous convoquez Strange Fruit à l'origine de la bataille des droits civiques.
Oui, absolument. C'est-à-dire que blues et jazz vont très vite devenir des musiques politiques. Alors blues, c'est une sorte de musique qui se réclame de l'esclavage, donc d'une certaine souffrance et des droits américains pour les noirs qui n'ont pas été respectés, voire complètement bafoués. Le jazz, c'est l'étape suivante. C'est qu'on est dans une étape où il y a plus de revendications. Alors, avant de dire un mot sur Strange Fruit, mais plus tard, on aura Mingus, on aura Coltrane, qui eux vont parfois faire des chansons sans paroles, et qui viendront convoquer les démons américains, le Ku Klux Klan, la bataille pour les droits civiques. Mais Strange Fruit, je trouvais que l'histoire était intéressante parce que, à la base, c'est un texte qui est écrit par un juif immigré aux États-Unis et qui reprend cette image du fruit étrange, mais qui est une image que lui avait lue dans des journaux de noirs qui avaient été pendus et qui étaient restés attachés à leur gibet. Ça l'avait extrêmement choqué, ça l'avait empêché de dormir, si bien qu'il avait écrit un texte. Puis ce texte va arriver entre les mains de Billie Holiday et son équipe, et ils vont en faire une chanson. Et cette chanson va effectivement être un cri de guerre contre les sévices et l'injustice qui est celle du peuple noir américain à l'époque.
La communauté noire et la communauté juive américaine se retrouvent dans le combat contre la ségrégation. Un homme s'élève le jazz en bandoulière, c'est Norman Granz, sans oublier Alan Freed.
Oui, absolument. Alors, des juifs qui, c'est plus trop le cas aujourd'hui, hein, mais qui sont très très proches de la communauté noire. D'ailleurs, souvent, les noirs américains à qui on ne donne pas d'audience sont entendus, joués et écoutés, soit dans des clubs détenus par les juifs, donc des clubs de jazz, soit aussi dans des salles un peu consistoriales qui appartiennent à la communauté juive. Donc il y a un lien très fort entre communauté juive et communauté noire. Et quand vous parlez de Norman Granz, donc c'est le fondateur du label Verve, qui est un très très grand label de jazz, lui, il n'a qu'une idée en tête, c'est faire en sorte que ses artistes soient aussi bien payés que les blancs, voire mieux, qu'ils puissent voyager dans les mêmes conditions et que la ségrégation soit mise de côté, du moins pendant ses concerts. Il va tellement loin qu'il fait des conditions générales de concert où il dit que noirs et blancs doivent s'asseoir à côté. Et celui qui n'est pas content, il est bon pour prendre la porte. Ça lui coûte même d'être mis en prison dans le Texas, puisque vous doutez bien que dans des endroits comme celui-là, la version de Norman Granz n'est pas tout à fait acceptée. En cela, il est effectivement un personnage un peu révolutionnaire. Je dis qu'il était le Moïse noir. Oui, oui, il a cette volonté de conduire son peuple, donc le peuple des jazzman, jusqu'à la terre promise, qui est l'égalité des droits civiques.
Le diable n'est jamais loin. Néanmoins, Fabrice Epstein, se cache-t-il le diable dans les housses de guitare?
Oui, peut-être qu'il se cache dans les housses de guitare. Et là encore, c'est un peu une des idées maîtresses du livre. C'est que quand vous êtes un artiste noir américain au fait de votre gloire, vous savez que vous pouvez tomber, que vous pouvez aller en prison et finalement vous retrouver loin des projecteurs. C'est Hendrix qui voyage d'Angleterre jusqu'à Toronto. Et à Toronto, comme par extraordinaire, un douanier saisit sa housse de guitare et il tombe sur de la drogue. Doutez bien qu'Hendrix, à l'époque, il est extrêmement surveillé. Il y a un nombre de descentes à Londres, en Angleterre, pour récupérer de la drogue et qu'on l'imagine mal voyager avec de la drogue dans sa housse de guitare. Bon, il va être mis en examen, il va être traduit en justice, il y a un procès, et il en a très très peur. Il en parle même à Mick Jagger, qui lui a été mis en prison quelques mois ou quelques années auparavant, et il s'en sort, grâce à un avocat, grâce à des témoins utiles, mais il a vraiment frôlé la prison et la fin de sa carrière.
Black Music Justice, une histoire judiciaire des musiques noires, c'est aux éditions La Manufacture des Livres. Merci Fabrice Epstein.
Merci Franck-Alexandre.